En Méditerranée, la pêche hauturière représente pour la France 90% de son activité de pêche. Et le turbot, Pseta maxima, se trouve être parmi les espèces présentant un fort intérêt économique. Mais ces turbots sont parasités à 100% par un ver plat, Botryocephalus gregarius, cestode, qui envahit la totalité du tube digestif du poisson. On peut trouver entre 30 et 300 parasites par individu. Un tel parasitisme a conduit à étudier son impact sur les turbots méditerranéens et, dans un premier temps, à préciser le cycle du cestode. Les botryocéphales doivent leur nom à la forme en clou de leur scolex. Chez Botryocephalus gregarius, le scolex est dépourvu de crochets. Il se fixe aux villosités intestinales du turbo par les botryums dorso-ventraux. Le strobile comporte un très grand nombre de proglottis renfermant chacun un appareil reproducteur mâle et femelle, comme chez tous les cestodes. Les derniers segments, les plus anciens, sont gravides. Ils contiennent une grande quantité d'œufs non embryonnés qui sont évacués dans l'intestin du turbo par les pores utérins des segments, puis libérés dans le milieu marin avec les excréments du poisson. L'œuf est protégé par une coque épaisse et présente à l'un des pôles l'opercule et son sillon de déhiscence. Après développement dans l'eau de mer, l'opercule se soulève et donne naissance au coracidium, stade larvaire libre. Il se déplace grâce à son enveloppe ciliée, l'embryophore, qui assure également la protection de la larve exacante. En laboratoire, l'éclosion des œufs est obtenue par exposition à la lumière après 8 jours de développement en obscurité à 18 degrés Celsius. Le coracidium est alors situé sous l'opercule et tourne sur lui-même. Le déplacement orthocinétique du coracidium est orienté par un pinceau de cils plus long situé à l'avant de l'embryophore. L'action conjointe de la pression qu'il exerce et d'enzymes qu'il sécrète entraîne la déhiscence operculaire. La larve s'extrait activement grâce à ses contractions et aux mouvements ondulatoires des cils en abandonnant au fond de l'œuf les restes de cellules vitellines qui ont permis son développement. Dès qu'il est libre, le coracidium ne peut poursuivre son cycle que s'il est consommé par un hôte intermédiaire, Eurythemora velox ou Arcacia discodata, copépode calanoïde très abondant dans le plancton marin. Ces copépodes sont de redoutables chasseurs de zooplancton et leur activité est décuplée en présence des coracidiums. La larve ingérée par le copépode se localise dans le céphalothorax. En 8 jours, elle décuple de taille. On la voit ici, près du vaisseau dorsal, situation qui lui assure un développement optimal. À 20 jours, le parasite possède dans sa région postérieure un sarcomère long et étroit qui porte 3 paires de crochets. À l'opposé du sarcomère, le scolex en plateau est bien différencié. Le procercoïde poursuit son développement à l'intérieur de l'hémocèle. De nombreux corpuscules calcaires, très réfringents, dispersés dans le corps du parasite, le protègent des variations du milieu. Après 3 semaines, le procercoïde, toujours pourvu du sarcomère, a atteint sa taille définitive. À ce stade de développement, la larve est devenue infestante pour l'hôte définitif. Le copépode, digéré dans le tube digestif du poisson, libère le procercoïde qui redonne un cestode adulte. Ce cycle copépode-turbo est caractéristique pour les poissons juvéniles dont le régime est essentiellement planctonophage. Au-delà d'un an, les turbos adoptent un régime ichtyophage, ce qui devrait entraîner une nette régression du parasitisme. Or, on constate au contraire que les gros turbos, qui pourtant consomment peu de copépodes, présentent un parasitisme accru. L'hypothèse d'un hôte intermédiaire supplémentaire s'imbriquant dans le régime ichtyophage de l'hôte définitif est apparue intéressante à considérer. Une prospection systématique de la faune littorale a été entreprise à l'aide d'un mini-chalut dans les eaux de faible profondeur où vivent les turbos immatures de moins de 3 ans. De nombreux téléostéens entrant dans le deuxième régime alimentaire du turbo ont été ainsi capturés. Un gobie des sables, fréquent en Méditerranée, a confirmé notre hypothèse. Nous avons décelé, chez ce gobie, des larves de botryocéphales fixées à la paroi de son tube digestif. Leur appartenance à l'espèce parasite du turbo a été révélée par une étude de polymorphisme enzymatique et par l'infestation expérimentale de turbos ichtyophages. En fait, dans la zone littorale, les copépodes sont des proies préférentielles pour les gobies. Ces copépodes infestés libèrent, dès qu'ils sont digérés par les gobies, des larves qui se fixent dans l'intestin et évoluent en préadultes. Ainsi, le turbo ichtyophage prolonge son parasitisme en consommant des gobies infestées. Selon l'orage, les turbos fréquentent différentes zones du plateau continental. Les juvéniles sont infestés à la côte par les copépodes parasités. Les jeunes ichtyophages, qui vivent en eau plus profonde, consomment les gobies parasitées. Enfin, les adultes localisés à la limite du plateau continental se réinfestent lors des migrations vers la côte en période de frais. En résumé, Botryocephalus gregarus est un cestode opportuniste qui utilise au mieux la biologie de son hôte définitif. Son cycle est indifféremment court, avec un seul hôte intermédiaire, quand le turbo est planctonophage, ou long, avec un hôte paraténique, chez les turbos ichtyophages. Le gobie, hôte paraténique, joue donc un rôle fondamental dans la dynamique de population du cestode, en favorisant l'accès permanent du parasite à l'ensemble de la population hôte. Il est possible que le cycle à un seul hôte intermédiaire soit le cycle originel des botryocéphales et que l'acquisition d'un hôte supplémentaire ne soit qu'une phase transitoire de processus d'évolution et de spéciation. Cette phase aurait eu pour conséquence l'apparition d'une grande variété d'espèces de botryocéphales réparties dans une cinquantaine de poissons téléostéens en différents points du globe.